Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Nous avons, dans chaque geste de vie, l'expérience de la résurrection des morts. Et est-ce qu'on a besoin d'opérations magiques pour savoir que c'est vrai? Un fantôme qui traverse le mur, lève-toi à Lazare et marche. Primitif. Et les chassidim ont beaucoup insisté là-dessus. Dans la Torah du Chabad, Hadashim la Bekarim, Rabba et Munatecha, okay? Mais ils n'ont rien inventé, ils citent la tradition. Ça veut dire que à chaque effectuation d'un geste de vie, nous faisons marcher des cadavres. Okay? Si j'ose dire. Enfin, c'est un peu elliptique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si ma nature est d'être mortel, alors je suis mortel, ça veut dire mort, et pourtant je vis. Donc celui qui me fait vivre ressuscite des morts. Alors je sais que mon Dieu s'appelle celui qui ressuscite les morts. Bon, quelle est la différence? La différence, c'est donc ma vie biologique, enfin mon état civil entre ma naissance et ma mort datée historique, et d'autre part, et ça c'est la destinée de chacun, et puis on revient pas, ça dépend le dossier, okay? Mais, et d'autre part, l'événement historique de la fin de l'histoire de Ralamazé, où c'est récapitulé pour tous ceux qui ont vécu, man de havo, vedeyu. C'est-à-dire tous ceux qui... Monsieur Ménial, n'est pas là?
Oui,
oui, vous rappelez votre citation de votre femme, mais vous étiez assis là. Et alors, là, tous ceux qui ont vécu, qui vivent et qui vivront. Bon. Et alors, où est la difficulté théorique d'une telle notion? Puisque je vis ça à chaque instant de ma vie, que je suis un mort ressuscité. Vous comprenez? En entendant le mot maître, qui signifie à la fois mortel et mort. Et ça veut dire que quand je parle du Dieu vivant, le Dieu qui me fait vivre, ça veut dire le Mechaye Hametim. Alors je sais qu'il est Mechaye Hametim, puisque je sais qu'il est Mechaye Hametim. Je répète les deux formules. Je sais qu'il est Mechaye Hametim, puisque je sais qu'il est Mechaye Hametim. C'est pas plus difficile de me faire vivre et de ressusciter un mort, c'est la même chose. Vous voyez le problème? Bon. Alors, est-ce que nous avons besoin, nous, de passer par des croyances magiques pour païennes, pour savoir qu'il en est ainsi? Non. Il suffit de respirer pour savoir que Dieu ressuscite les morts. Alors, vous voyez, où vient l'option de foi? Précisément dans le passage entre Mechaye Metim et Mechaye Hametim. Mkayem Emunato Lishene Afar. C'est-à-dire qu'il faut récupérer des dimensions d'un optimisme élémentaire. C'est pas vrai, colossal cet optimisme, mais élémentaire. Et est-ce que, à moins d'être malade, dans un sens clinique, est-ce que le fait de vivre, c'est pas témoigner qu'on a cette foi-là, puisqu'on continue? Bien, puisque chaque mouvement d'effectuation de vie est un témoignage qu'on continue à croire cela, que ça a un sens. Alors, ça a un sens quoi? Ça veut dire que ça mène pas à la mort. C'est pas possible. Vous comprenez que là nous allons, l'humanité s'est divisée en deux formes de conscience, la conscience tragique, l'égoïme, et puis la conscience messianique, les juifs. Il n'y a pas de milieu, c'est ou ça, vous comprenez le problème? Bon, et alors ce que je voudrais encore répéter, c'est que ça passe pas par des idées d'abord, ça passe pas par des croyances d'abord, ça passe par une manière d'être homme que nous avons reçue en héritage à travers une histoire très difficile. Et encore une fois, j'ajoute, nous et ceux qui s'adjoignent à nous. Parce qu'à l'échelle individuelle, ils ont eu d'une manière ou d'une autre la même expérience, ils ont rejoint leur source. Ils ont rejoint leur famille. Bon. Et ça ne passe pas par des idées, ce n'est pas de la philosophie. Quand il faut exposer, alors on se servira d'un langage théologique, philosophique, si vous voulez. Mais je voudrais être très très clair, ce n'est pas du tout. Intellectuel. C'est une expérience de vertu qui s'est exprimée dans une histoire, l'histoire d'un peuple, et que nous ont expliqué, raconté les prophètes. Et au fond, pourquoi on n'arrive pas à croire? Parce qu'on croit qu'il s'agit de quelque chose qu'il faut croire. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quelque chose qu'on vit. Bien. Voilà. Est-ce que c'est suffisamment? Alors maintenant, la réincarnation, comment ça se récapitule? Tout ça, c'est Hormat Anistar. Je vais demander à mon maître de m'interdire de vous en parler.
Bon.
Il y a des
demandes.
Bon, je vais lui transmettre la demande. Okay. Oui, monsieur. pourquoi pas. Oui. Et le tas, où il est? Le tas, où il est? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'agit du mapaï, le parc. Hein? Ah, mapaï, je croyais qu'il voulait ressusciter le mapaï. Quelqu'un, alors continuez. Quelqu'un? Et puis, avec le même du Mashiach à la fin. Ouais. Non, je crois pas qu'il... Non, c'est pas la peine. Je crois que c'est plus important de savoir que ça viendra que de se demander quand. Parce qu'on a étudié jeudi, quand le Mashiach a répondu, « Ayom, aujourd'hui, im bekolo tishmaou. » Quel absolument. Mais en sachant bien que la résurrection des morts, c'est pas seulement se rappeler. Parce qu'il y a une manière en figurique de dire ça. Je me rappelle de lui, il est vivant. C'est pas ça, hein?
Tout à l'heure, c'était par rapport à la Guémara, où on se rappelle que les événements sont ouverts.
Oui, d'accord. C'est-à-dire, celui qui a perdu la mémoire n'est pas dans le coup. Mais grâce à cette mémoire, il se produit un événement réel de présence de ceux qui sont dans l'absence. C'est autre chose. Okay? C'est pas dans ma mémoire qu'il ressuscite. Bon. Okay.
Ça explique aussi très bien pourquoi dans la Gemara, finalement, elle dit quels sont ceux qui ne ressusciteront pas, qui est exclu, et ceux qui n'y croient pas.
Exactement.
Il ne veut pas ressusciter ceux qui n'y croient pas, il s'exerce parfaitement.
Exactement. Et il n'y croit pas, ça ne veut pas dire une formule à laquelle on adhère comme on adhère à un catéchisme ou à un parti. Non. Ça veut dire que ils ont pris comme ligne directrice de leur vie le fait de se conduire comme ça. Eh bien, voilà. Hein? Oui, ça veut dire qu'ils ne vont pas là où il faut y aller, là où il faut arriver. Même s'ils disent, j'ai le code de la route. Oui, mais ils vont ailleurs. Hein? Vous comprenez le problème?
Et la deuxième chose, je me souviens quand M. Gordon, expliquer justement la Gemara, pourquoi on rentre dans les détails concrets, et celui qui a la langue coupée, et avec quel parle, etc. Et M. Dordain faisait remarquer que si il y a ce pseudo-folklore, c'est tout à l'heure, c'est pas que c'est sérieux. Ça concerne chaque enfant, c'est pas symbolique. On a envie de ressusciter symboliquement, ou ressusciter simplement en âme. Ce que nous intéresse, c'est chacun d'entre nous de ressusciter vraiment. Et par conséquent, toutes ces questions se posent. Ce pseudo-folklore, justement, montre que c'est sérieux.
C'est des questions sérieuses. Très, très bien. Très, très bien. Et je me rappelle très bien que j'avais souri parce qu'une fois dans ma vie, j'ai voulu assister à un cours de M. Vaïda, que Dieu est son âme. Et c'est un homme. Hein? Oui, il a déjà. Enfin, je veux dire, c'est un homme pour qui j'ai eu énormément de considération. D'autre part, un jour, on fera à Rachi un hommage, certainement. Et alors, Dafka, le jour où j'ai assisté aux études, à l'étude qu'il dirigeait, il parlait de ces midrashim-là. Et il disait, lui, je ne sais pas si M. Gordon avait entendu les théologiens parler, enfin, les professeurs de théologie, folklore messianique. Folklore. On rappelle très, 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 très. Alors, effectivement, ce sont des problèmes sérieux et concrets. Alors, puisque tu as posé la question, on va dire une petite chose. La Gemara dit, et pour qu'on soit sûr d'identifier ce dont il s'agissait, ils vont naître avec tous leurs défauts, renaître, avec tous leurs défauts, et après on les guérit. Comme ça, au moins, on s'identifie. Ah, c'était toi, hein, puisque... Genre... Oui, et après vous... Attendez, monsieur, il est persécuté là-bas.
Dans la mesure où il y a une résurrection, et là, vraiment, j'y crois, mais je me demande quand même à quel âge physique, à quel âge mental...
Et si je vous le dis, ça va vous faire une belle jambe. Allez, je vais vous le dire, à 33 ans, et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça me rappelle les médecins. Dites 33, dites. Ça n'a aucune importance. Je veux dire, c'est une plus grande vertu de savoir qu'on va ressusciter que de se demander à quel âge. Qu'est-ce qui a une importance?
Parce qu'on est prêt dans cette vie.
Écoutez, utilisez votre temps de vie au maximum, préparez-vous tous les jours, parce que le Messie a dit aujourd'hui si tu es prêt. Et ça, c'est autre chose. Vous savez que la Mishnah dit, poser la question, mais quand il faut se repentir? Tous les jours. Pour comment elle le dit? Un jour avant ta mort. Et comme tu ne sais pas, alors tous les jours. Ça, je crois que là, il y a une notion de la tradition juive qui est extrêmement importante. Le plus grand crime, c'est tuer le temps. Bitoulzman. Un temps vide, c'est ça le plus grand crime, parce que c'est peut-être ça qui ne se récupère jamais. Et alors après, il faut revenir, et c'est fatigant de revenir. Bon, voilà, je crois qu'on a vu des choses importantes. Et... Ah oui, monsieur, pardon.
Est-ce que vous
ne
faites pas intervenir le roi de Jésus en tant que Messie? La venue du Messie est une terminée stable.
Non. Attends. C'est là que les Athéniens s'atteignent. Et je vais vous dire, vous avez suivi tous les cours du matin? Non, voilà. On a parlé de ça, bien sûr. Bien sûr qu'on a parlé de ça. Je crois qu'il y a deux questions. Pour qui il vient? Alors, là, vous êtes en plein dans votre question, pour qui il vient? Bon, il vient pour tous les hommes. Parce que c'est le Dieu unique dont nous parlons, qui nous l'envoie. Et qui le prépare. Mais, il vient d'abord pour ceux qui le méritent, et c'est eux qui décident après qu'est-ce qu'on fait des autres. Je vais étudier ça dans la semaine. Alors, rassurez-vous, les Juifs sont très gentils. N'ayez pas peur. Je vous racontais une... N'ayez pas peur. C'est pourquoi cette fois-ci j'ai décidé d'être gentil, ça se voit. Hein. Et alors là, il se passe quelque chose à Jérusalem, je ne sais pas quoi. Je vais raconter une paraphrase d'un midrash qu'il y a dans le début de la Maseret Avodah Zara. Je l'ai souvent raconté dans les séminaires dans l'autre salle, peut-être les années précédentes. Ça m'a beaucoup frappé. Il dit c'est à peu près comme ça. À la fin des temps, on va faire le jugement dernier. Parce que je n'ai pas encore parlé du jugement dernier. Et un jugement dernier. Et... Alors, on va faire le jugement dernier. Alors, imaginez qu'on prépare la salle, les anges de service qui amènent les grands livres, les codes et les livres des consciences, on va confronter qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Bon. Et puis, Remou, c'est une paraphrase, hein. Remou dans le staff de préparation du jugement dernier, qui est, on n'a pas pensé à quelque chose de très important. Okay. Quoi? Eh bien, on peut juger que les Juifs. Pourquoi? C'est les seuls à avoir accepté la loi. On ne peut pas juger les autres. C'est important. Alors, panique dans l'univers. Qu'est-ce qu'on va faire? Un bon Dieu qui réfléchit, il dit, bon, allez, ça va. Eh bien, on va juger que les Juifs. C'est pas un midrash anti-juif, hein? On juge que les Juifs. Elle dit, bon, on va juger que les Juifs. On verra ce qu'on fera des autres après. Et alors, on commence à se préparer à juger les Juifs. Et alors, il y a tout le goyim, comme un seul homme, qui se lève et qui dit deux choses. Premièrement, il dit, on ne savait pas que c'était sérieux. Et on efface tout, on recommence. Bon, Dieu dit, on n'a pas le temps. Je vais vous donner une petite mitzvah. Si vous l'accomplissez, vous passez avec les autres. Sinon, vous ne passez pas. La mitzvah de la souka, vous vous rappelez de ça? Alors, souka. Allusion à ça. Bon. Non, c'est dans la Gemara. Regardez bien dans Avodah Zarah, page 2. Et alors, il dit, bon, je vous donne une petite mitzvah, le club méditerranéen, la souka. C'est pas difficile. Voilà, vous faites une souka comme ça, comme ça, comme ça, et puis on verra bien. Et qu'est-ce que fait le bon Dieu? Il fait sortir, dit le midrash, le soleil de sa trajectoire, il rapproche le soleil, il fait chaud, 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 on peut pas rester dans la souka. Et vous savez qu'il y a une clause du Shulchan Aruch, s'il fait trop chaud dans la souka, eh bien, on rentre à la maison, au frais. Bon. Et alors, les goïms s'en vont, ne comprennent pas, claquent la porte de la souka, ils rentrent dans la maison, et bon, vous l'avez vu, échoué. Alors, la Gemara discute comment? Tu leur as posé un piège. Ils disent très bien, d'après le Shulchan Aruch, ils avaient le droit de rentrer chez eux. Il dit oui, mais pas en claquant la porte. La différence. La différence, elle est apparemment anodine, mais elle est très importante. Quelle a été la réaction des goïms devant la Torah? Qu'est-ce que c'est que cette Torah qu'on ne peut pas pratiquer? J'en veux pas. Alors que les Juifs, c'est comme ça. Les Juifs, c'est comme ça. On ne peut pas. Dommage, on ne peut pas. Bon, ça fait rien, on va essayer. On ne peut pas, tu crois? On ne peut pas, allez, viens, on ne peut pas. C'est une attitude complètement différente. Vous avez compris? C'est... Bon. Alors rappelez-vous de ça, ils ont claqué la porte de la souka. C'est le plus grand péché qui puisse exister. Bon, ça c'était la première intervention d'Église. Puis après, en même temps, dans le Midrash, il dit, voilà, nous avons un témoignage à porter. Alors, Dieu dit, eh bien, témoignez. Il dit, ben voilà, sache que nous avons fait tout ce que nous avons pu pour empêcher les Juifs de pratiquer leur Torah. On leur a tout inventé, hein, même le 113. Donc. Et alors, là, j'ai rien dit, hein. C'est des histoires abracadabra. Et là, alors le bon Dieu qui dit à ses Juifs, et bien mes amis, on l'a échappé bien, hein, parce que, et bien, ils ont témoigné. On a fait tout ce qu'on a pu pour empêcher les Juifs de pratiquer la Torah. Bon, alors on va sortir du jugement naquit. Tout ça, c'est très sérieux. Ça allait d'être anecdotique, mais c'est l'histoire. Et alors à ce moment-là, il y a un ange qui se lève et qui dit, bon, et les autres, qu'est-ce qu'on va faire des autres? Et le bon Dieu qui a une idée, il dit, ben voilà, on va juger les Juifs d'après la Torah, avec les circonstances exténuantes. Mais on va juger les autres d'après ce qu'ils ont fait de leurs Juifs. Alors là, on récupère toute l'histoire d'antisémitisme au jugement dernier. Et comment on va faire? Eh bien, on va demander à chaque Juif de décider pour son goy. Alors n'ayez pas peur, les Juifs, ils sont gentils. Voilà, vous avez compris le problème? Je crois que ceux qui seront les plus embêtés, c'est lesquels? Non, mais lesquels les Juifs? Ouais, bah, parce qu'on a eu des goyes différents. Hein.
Okay. C'est lesquels?
Je pense. Ce sera les Juifs allemands qui vont être bien embêtés, parce que là... Hein? Non, les Polonais, c'est sûr que... J'y veillerai. Hein? Bon, je sais pas, là on s'est arrêté, on va pas la suite. Mais je crois qu'ils vont être embêtés. Hein. Bon, tout ça c'était un midrash, bien entendu. Vous allez bien dormir la nuit quand même. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement. Non, je crois qu'on pourra dire à ce moment-là, noblesse oblige, on n'est pas juste pour rien. Ken, descendant d'Abraham, interdit d'être cruel. On verra bien. Donc, alors, il y avait d'autres cas. Oui, monsieur, mademoiselle et madame. Donc. Ben, Shlomo, c'était une préfiguration. Le premier fils de David historique a un nom de fonction, l'homme de la paix. Mais ici, on demande un nom de personne. Et là, l'idée est importante. Ça veut dire, dans n'importe quelle communauté, ben, on a une figure de proue dans ce problème. Okay? C'est-à-dire, quand les élèves ont demandé dans la yeshiva, eh ben, on leur a répondu. Tu sais, on a un verset pour notre yeshiva, par exemple. À l'école d'Auteuil, il s'appelle Emmanuel. C'est un nom du maçon.
Voilà, le problème est le suivant. C'est un problème de... C'est l'antinomie entre deux cours, enfin l'antinomie apparente entre deux cours. Le premier, où vous avez parlé d'une réalité physique de l'homme qui adorera le corps de la femme et la femme.
Vous rappelez les chars?
Il
y a des cassettes.
Et le fait que il y a une...
Attends, explique, je comprends pas ce que tu dis.
Que le temps messianique. Ah, je voulais aller trop bien. Que le temps messianique serait un temps où. Même pas le temps messianique, on passerait un temps où l'homme pourrait aimer la femme dans ce cas-là de. C'est la référence que vous avez donnée.
Écoutez, qui se rappelle de ça? Moi, je m'en rappelle pas.
Ah, si, c'est un séminaire précédent. C'est le dernier séminaire, il y a 3 ans.
Écoutez, trouvez-moi la cassette, les notes, je ne sais pas, mais ça ne me dit rien. En tout cas, pas comme ça, je n'entends pas.
Tu as dit, je crois que tu as dit que tu reconnaîtras l'homme accompli de la même manière que l'homme qui regarde sa femme, la femme qui regarde son homme.
Je ne me rappelle pas. Je vous avoue, je ne me rappelle pas. Il faudrait que vous montiez des choses précises. Et le seul thème auquel il me semble que ça puisse se référer, c'est quand je vous parle souvent du patriarche qui dit de sa femme que c'est sa sœur. C'était ce thème-là, peut-être. Non, là, ça, je vous avoue que je ne peux pas répondre.
Et avec, en fait, celle de ce fait que la pierre disparaisse en Olam Haba. Ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement utile à...
Ah, ça, nous avons étudié dans le cours de Kabbalah le matin.
Okay.
Et je vous ai dit que c'est transfiguré. Pas du disparaître comme ça, c'est un peu simple. Okay. Transfiguré. Bon, ça, c'est ça se rattache aux questions de tout à l'heure. Je crois que, et ça, nos maîtres nous ont habitués à cela. À partir du moment où on désigne, il y a. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben, va voir. On verra. Oui, c'est comme pour toutes vos questions, à quel âge, comment. Tout ça, c'est pas de la vraie étude. Tu comprends? C'est de la recherche un peu d'exotisme, je ne sais pas comment dire. Il me revient une phrase de Joël. Le judaïsme, c'est pas un révulsif pour âmes qui ont pris froid. Allez faire des cataplasmes, c'est autre chose.
C'est toi qui l'as dit, c'est pas Joël.
Ah, Joël qui l'a répété? Ça fait rien, ça reste dans la famille. Bon. Si on a besoin d'enveloppement, on prend des enveloppements. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des petites choses comme ça excitantes pour l'esprit, c'est pas ça la vraie. Hein. Donc, bon. Quelle est l'autre question?
Non, c'est tout si vous voulez, parce que ça c'est pas une question, c'est que dès que ça en question une mauvaise question de pensée. Or, un anéantissement complet de la matière.
Alors, tu mets transfiguré.
Ah bon, ça remet
tout
en question.
Ça, je crois qu'il faut que vous preniez à charge vous-même les nuances des rapports entre les différentes unités de connaissances que vous retenez, la manière dont vous aménagez, ça c'est votre travail. Par exemple, je vous ai dit la semaine d'avant, j'étais à Bruxelles pour un symposium sur création et évolutionnisme. Je sais pas, c'est une idée obsessionnelle. Dans la génération, je crois, un peu partout, on s'occupe que de ça. Et alors, j'avais des biologistes qui tenaient absolument à démontrer que nous étions des bactéries évoluées. Vous vous rappelez? Cinq bactéries, priez pour nous. Bon. Alors, c'est une obsession. Alors, j'ai essayé de dire très, très gentiment que finalement, toutes ces hypothèses des savants, en saine méthode expérimentale, pas les scientistes, les savants, ils savent très bien que ce sont des hypothèses explicatives, des hypothèses de lecture, des hypothèses ni vraies ni fausses, des hypothèses. C'est clair. Je parle de ceux qui pratiquent vraiment la science, pas les scientifiques. Et alors que pour nous, ce sont des images, et que nous préférons les images qui ont la charge de moralité positive la plus grande, et non pas des images qui risquent de véhiculer des charges de moralité négative. Par exemple, persuader une société industrialisée qu'elle est un ensemble de bactéries parlant des problèmes de l'homme, ça risque de mener à la guerre atomique, parce que les bactéries, elles sont foutues de ce qui se passera dans leur avenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Démontrer aux gens que ce sont des animaux modifiés, ils risquent de se conduire comme des animaux très modifiés. Bon. Alors, ce sont des images. Vous savez, un homme de la tradition ne prend pas au sérieux des hypothèses dites scientifiques, parce qu'il sait ce que c'est que la méthode expérimentale, que ce sont des procédés mentaux opérationnels, méthodologiques. Est-ce que c'est clair? Et vous vous rappelez quand on est arrivé au Sinaï, que Dieu nous a dit, tu seras sage et tu n'auras pas d'image. Bien? Bon, parce que les images, c'est dangereux. Donc, les images, c'est fécond. Mais leur fécondité même implique qu'il y a des explosifs derrière. Et surtout d'ordre moral. Alors, j'ai passé un quart d'heure pour essayer d'expliquer à ce monsieur, et je crois qu'il a compris d'ailleurs à la fin, parce qu'il est venu me dire, d'un non-juif, que la Genèse, c'était son livre de chevet, on s'en doutait. Mais qu'il allait le relire avec un autre aperçu. Bon. Et alors, voilà donc quel est le problème. Après tout, la base physique de notre première présence dans le monde matériel, c'était une moisissure. Mais cette moisissure, finalement, elle était dans le principe la prunelle de mes yeux, de la matière transfigurée. Et alors elle sera transfigurée plus. Mais pourquoi? C'est pas très difficile à intégrer. Mais c'est des images. Oui.
Moi qui ai du mal à croire à la réincarnation, je me suis demandé si le but n'était pas justement, un progrès, un être plus à chaque réincarnation. C'est pour ça que je disais que dans quelle mesure nous n'avons pas le temps. une affaire de ceux qui ne sont pas rentrés.
Ah, bon, alors je reviens à votre question. Alors, ce n'est pas un problème donc de descendance, puisque ces descendants-là ont été enterrés dans le désert. Vous vous rappelez de ce qu'a indiqué Rashi sur le verset « Hami beli en kevarim ve mitzraim le kartanu lamut amidbar » Est-ce par faute de non-tombe dans l'Égypte que tu nous as amené à mourir dans le désert? Et Rashi insiste, ça veut dire si port faïence de non-tombe. Vous vous rappelez de ça? De non-fausse. Si par défaut, par faïence, ancien français, c'était pas de la porcelaine, la faïence, de non-tombe. Alors, cette expression est très importante. Le juif a conscience que sa tombe, c'est une non-tombe. Les goyim pensent que la tombe, c'est une tombe. Okay? Nous savons que les tombes sont des non-tombes, c'est les portes de quelque chose d'autre. Et bon, alors il y a des civilisations où il y a encore des non-tombes, on peut encore vivre dedans, c'est des civilisations, mais quand on fait un diagnostic, il n'y a plus de non-tombes, alors il faut s'en aller d'urgence, okay? Parce qu'on risque d'avoir des tombes. Et avec l'humour de l'histoire, que des tombes qu'on ne sait pas où elles sont, en plus, okay? en fumée. Bien, en tout cas, pour revenir à notre question, il s'agit donc de réincarnation, et nous avons une tradition, mais je ne peux pas en dire plus, que tout se passe comme si notre génération est la réincarnation de la génération du désert. Qui est, et alors on a tous les personnages qui sont là, déguisés en ma paille, ou en ma femme, ou en ma poutre, enfin, déguisés. Donc, et que la génération du désert elle-même était la réincarnation des âmes de la génération du déluge. Et avant, et avant, et avant. Vous vous rappelez, Kadmonio, Toltit Bonemi, etc. Ça veut dire que, tout est par contre, si c'est une image, que Dieu a donné à l'histoire une quantité d'âmes qui doit faire son tikkun jusqu'à ce qu'elle le fasse. Bon, voilà. C'est ça le. Bien. Et, attendez, il y avait mademoiselle et ensuite monsieur. Après. Okay.
La première, est-ce qu'on est demandé de ce que deviendront la nature et les animaux, en gros, de tout ce qui leur a aimé dans l'eau la mata, et également le haut du troisième temple.
Le
haut du troisième temple.
Oui. Alors, je commence par la fin. Le rôle du troisième temple, nous le savons, c'est un rôle d'adoration, et non pas d'expiation. Donc, ça veut dire qu'il y aura une mutation morale colossale. Bon. Et puis, pour les autres questions, je vous réponds à peu près de la même manière. Moi, je ne sais pas. Ça sera transfiguré. Bon. Et je crois que les artistes ont pressentiment de cette forme de transfiguration. Non. Écoutez, je vous dire, il y a une expression très importante. Oui, non, je vous ai dit au début, rassurez-vous. Alors, rassurez-vous en gros. Donnez une minute. Avant que j'oublie, je voudrais juste ajouter une phrase. Il y a une expression à propos du déluge, que tout ce qui avait existé a été effacé. C'est-à-dire, les formes de brouillon ont été effacées, mais la matière est restée, récapitulée dans l'arche, et ça fait souche. Bien. Quel? Patience. Oui. Attends, mademoiselle, et après toi. Bien.
Vous parliez justement de ceux qui sont morts, de leur dossier qui est enfermé, qui attendent un monsieur, pour qu'ils puissent faire, si j'ai bien compris, leur place.
À leur place, pour eux, et on est concerné par leur histoire. Mais vous avez dit l'essentiel dans votre question même. C'est-à-dire que la destinée, grosso modo, bien, la destinée de mes devanciers qui ont fait que c'est moi qui suis moi, c'est eux qui ont fait ça. Elle est en jeu dans la phase où c'est moi qui suis eux. Et donc, il faut que je me méfie, parce que je ne porte pas que mon destin, mais le leur aussi. Et c'est tellement évident. Bon, vous allez me dire, et ceux qui n'ont pas d'enfants, la halakha a déjà donné la réponse. Leurs élèves, un fils adoptif, ça revient au même. Pour la halakha, ça revient au même. Bon. Et la... Ce que je voulais ajouter, c'est que j'utilise souvent ce thème pour un problème concret de la société juive qui est très préoccupant aujourd'hui et qui est celui des mariages mixtes. Vous ouvrez une petite parenthèse. Et c'est ceci. Je crois qu'effectivement, à l'échelle individuelle, chacun a le droit d'aimer qui il veut si déjà il aime. Comme je veux dire. Parce que, d'autre part, on sait qu'on aime qui on veut. Comme enfin les choses dans ce qu'elles sont, chacun a le droit d'aimer qui. Parce que le principal argument, c'était « mais je l'aime ». Bon. D'accord. À l'échelle individuelle, ça se régularise. La Torah, c'est la vraie Torah de moralité. C'est pas un code légal qui que... quoi donc. Bon. Seulement, quand il y a un phénomène statistique d'exogamie, à l'indice que cela prend dans la société juive, il se passe autre chose. Il se passe une société en train de se suicider. Bon. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Bon. Et alors là, il y a une autre dimension, un autre facteur. Et vous allez dire, oui, chaque individu dans le chiffre global de la statistique revient au cas précédent, c'est sûr. Mais c'est le rôle des rabbins d'alerter les juifs que, indépendamment de l'indice individuel, il y a un indice de l'histoire du peuple et qui est déjà à dépasser la cote d'alerte d'un suicide. Je pense que c'est clair. Et alors, à ce niveau-là, quand il m'arrive à mon bureau des couples qui viennent me dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu peux nous aider, tu peux pas nous aider? Alors, je leur pose la question suivante. Bon, tu as décidé de te marier avec un ou une non-juive. Ça veut dire, tu as décidé que ton père aura des petits-enfants qui seront plus juifs. Tu as décidé pour lui. À l'indice grand-père, petit-fils. Okay. Alors, réfléchis. En général, ils ne comprennent pas. Enfin, sur le moment. Et après, je pense que j'espère qu'ils finissent par comprendre, parce que ce sont quand même les choses de la vie. Okay. Et alors, je leur donne le conseil suivant. Et voilà. Regarde bien ta bien-aimée. Regarde bien ton bien-aimé. Et puis, essaye, derrière eux, de voir ses parents. Et tes parents, et de les voir mariés. À leur âge. Est-ce que ça marche? Si ça marche, vas-y. Si ça marche pas, réfléchis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair ce que je dis. Bon. En général, ça marche pas, vous comprenez? Parce qu'un breton, c'est un breton, et un hébreu, c'est un hébreu. On peut être cousin, on peut être ami, on peut être frère. On peut pas faire d'un hébreu un breton, et d'un breton un hébreu. À moins que un miracle de conversion, et ça existe, mais c'est un miracle, se fasse. Pardon? Ouais. Un hébreu. Bon, je dis breton parce que j'aime beaucoup les bretons. J'ai pas dit auvergnat, ça veut dire que je les aime pas. Mais en fait, les bretons, j'aime beaucoup. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Et c'est pourquoi il faut bien réfléchir. Nous portons effectivement en nous cette ascendance dont vous parlez. Nous disons nous portons en nous. Je ne voudrais pas que ça paraisse uniquement comme une image. Nous portons avec nous. Et la phrase de la Gemara tient trois mots. Bera, Mezake, Abba. C'est le fils qui fait mériter le père. Et l'histoire marche jusqu'au jugement dernier. Et je vous ai souvent raconté cette blague juive que j'ai entendue en yiddish. Je vous traduis en français. Et c'est que dans une petite bourgade juive, il y a une femme juive qui interpelle sa voisine du haut de la ruelle. Il dit, Sarah, fais attention, ton caduc s'est cassé la figure. Ton caduc s'est cassé la figure. Vous avez compris l'image. Ça veut dire, ton gosse est tombé. Et elle appelle son caduc de demain. Vous avez compris? Alors, va mettre un sparadrap à ton caduc. Bien. Attendez, monsieur avait demandé depuis longtemps, on va lui donner la parole et puis après on va... Bon, alors je vais te dire, fais bien attention. Et... Bon, je te remercie de ta question, ça me permet de préciser. C'est que j'ai pas dit que le Messie s'appelle Menachem. J'ai dit qu'il est écrit dans la Gemara, qu'on lui a donné différents noms, et Ve'ekad et Amré, certains disent Menachem, parce que Menachem, ça veut dire le consolateur. Et chaque fois, c'est aussi des noms de fonction, d'une certaine manière. Et qu'une des fonctions principales de l'identité messianique, c'est la consolation. Si vous relisons l'histoire de l'humanité, et on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin d'un consolateur dans tous les cas. Alors que ceux qui ont mis l'accent sur cette fonction ont dit, non, c'est Menachem qui doit s'appeler, parce qu'on a besoin d'un consolateur. Vous comprenez le problème? Bon, attendez, je n'ai pas fini. Or, il arrive, bon, mais ça c'est l'humour de l'histoire juive. Nous vivons une page de Pourim toute l'année. Que le rabbi de Louvain-Ville s'appelle Menachem. Okay? Et que le président du conseil israélien s'appelle Menachem. Bon, mais ça, c'est c'est pour rire. Tu comprends? Et parce que ça serait pas sérieux de prendre ça au sérieux. Jusque-là. Non, mais il y a des gens qui prennent ça au sérieux, vous comprenez? J'ai entendu que les jeunesses Lubavitch, pour qui j'ai beaucoup de considération d'autre part, mais les jeunesses Lubavitch ont organisé, je ne sais pas moi, des régiments, okay, avec des badges, des insignes, à l'américaine. Okay. Et puis, alors quand ils parlent du Messie, ils ne disent plus le Messie, ils disent Mamash. C'est Menachem Mendel Schneffer. Non, mais authentique. Bon. Et alors, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. C'est que c'est un très grand rabbe. C'est un très grand juif. Mais faire de lui une idole, adieu, comme on dit en Tunisie.
Mais est-ce qu'il accepte?
Hein? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Je vous décris un phénomène. C'est ce que je penserai, c'est ce que j'aurais tendance à penser, bien sûr. Mais encore une fois, écoutez.
Il fallait lui demander.
Oui, je vous assure que pour moi, ce qui s'est passé dans le chapitre d'Ézéchiel, c'est plus important que ce genre d'anecdote. Vous comprenez? Ça, c'est plus important, ça, c'est l'histoire réelle.
Okay.
Oui. Eh bien, vous avez raison, il ne faut pas. Je vous ai dit 10 fois, je ne sais pas. On ne sait pas. Voilà. Attendez, ça sera la dernière question parce que. Alors qui? Tirer au sort, je ne sais pas. Bon. Après, qu'est-ce
okay. On parle beaucoup de prophétie avant la venue du Messie. Oui. Savoir à quel moment doit venir annoncer.
Bien écoutez, il y a un verset très clair dans le prophète Malachi qui indique sa fonction. Je vais vous lire le verset, puis on va s'arrêter là parce que ce n'est pas le sujet qui est épuisé, mais ça vient. Ineni Soleach Lachem et Elia Navi. Yifnebo ayom agadol v'anora v'heshiv levavod alvanim v'levvanim alavoda. La Gemara étudie ce verset, elle dit voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de choses, mais par rapport à votre question. Je vous envoie, Élie le prophète, avant le jour grand et redoutable, Dieu préserve, hein, le jugement dernier, et il ramènera le cœur des pères au cœur des enfants et le cœur des enfants au cœur des pères. Ça veut dire qu'il y a un stade important de la réconciliation des générations. Et quand ça se produit, ça veut dire qu'Eliyahu fonctionne. Bien, allez, on va s'arrêter le camp. Oui, bon, vous avez essayé de finir après, oui.
Vous avez dit qu'on ne croit, que celui qui ne croit pas la famille, il ne sera pas un chien dans le
désert. Attendez, je précise, minute, pour ne pas vous tromper dans votre question, c'était à propos de ce qu'avait dit Michel. C'est la première Mishnah que vous avez prédit. Celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts, n'a pas de part au monde à venir. Et non, chélek la olam haba. Ou kofer bitriyat hametim, dit la Gemara, il nie la résurrection des morts, lo yelo chélek bitriyat hametim. La difficulté, c'est que la Mishnah avait parlé de chélek la olam haba, et on discute sur celui qui parle de triyat hametim. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas ressusciter. Peut-être certaines catégories ressusciteront pour deux choses. D'abord parce que dans tous les cas, ils ont droit à une explication. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Et puis là, qu'est-ce que je vais dire pour voir ce qu'ils vont perdre? C'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui a été ta question?
Alors, est-ce qu'on peut extrapoler pour le Mashiach, la même chose pour une raison et l'autre, une personne, par exemple, pour différentes raisons,
parce
que le nazisme, disant, s'il y a bien autre chose, il
n'est pas comme Mashiach. Bon, on fait...
C'est la même chose.
Bien, très bien. Non, j'ai même pour la réflexion des morts aujourd'hui, on fait un diagnostic. Qui a dit ça? Qui a dit cette phrase hérétique? Si c'est quelqu'un dont les paroles ont du poids, alors ça risque d'être là. Okay? Mais si c'est quelqu'un qui dit ça du dedans d'une souffrance, qui dit ça du dedans d'une ignorance, alors on ne tient pas compte. Il a dit une bêtise, et bien il a dit une bêtise. Pour ça, on va lui enlever son monde à venir. Vous comprenez ce que je veux dire? On fait un diagnostic. Okay? C'est clair, c'est pas une Torah légaliste. Quand la Torah dit, celui qui dit il n'y a pas de résurrection des morts, alors il faut comprendre à quel niveau ça se passe. Celui dont c'est le slogan de vie, celui dont c'est la règle de comportement, Vous comprenez à quel niveau de sérieux ça se passe. Quelqu'un qui a dit une bêtise, il a fait du bruit avec la bouche. Et la camarade discute comme ça, elle dit comment ? Dieu lui a donné, en le créant, une part au monde à venir, et toi, le rabbin, tu vas la lui enlever parce que tu as entendu une hérésie. Ça ne fait pas le poids. Vous comprenez ? Peut-être qu'il a dit une bêtise, alors il a dit une bêtise. Allez, je veux dire, on considère que seul un grand Tamir Hacham peut être apikoros. Alors n'insultez pas les gens en les appelant apikoros, ça veut dire que peut-être ils sont Tamir Hacham. Bon, alors, et puis c'est fini. Hein, parce...
Il me paraît un secret, mais un secret à la portée de tout le monde, c'est que je crois que si comprendre de façon très prosaïque, simple dans la vie de chacun, quand il retourne dans ces questions de résurrection des morts, il faudrait étudier en détail comment fonctionnent les lois d'héritage.
C'est pas une mauvaise idée, ça. Allez, voilà, on a un sujet de séminaire avec le Messie. Bien, alors à tout à l'heure à 3h.